Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Bonjour Astrid.
Bonjour.
Alors, de quoi on parle aujourd'hui ?
Alors, on parle aujourd'hui de quelque chose qui n'est pas encore passé, parce que ça, c'est aussi un des problèmes qu'on a des fois de parler d'événements, mais qui ne sont plus d'actualité. Mais là, c'est absolument d'actualité. Donc, je voulais vous parler d'un film absolument extraordinaire, vraiment, que j'ai adoré, qui passe en ce moment au Cosmos, hein, au cinéma Le Cosmos, à Strasbourg, donc rue des Frambourgeois, qui était l'ancienne Odyssée, comme ça cassé. Voilà, donc c'est un cinéma qui programme des films extrêmement intéressants, très variés. Il a une programmation très, très riche, mais avec des horaires changeants. Il faut vraiment s'accrocher pour trouver les dates et les bonnes dates et les bons horaires. Alors, une fois, c'est dans la grande salle, une fois dans la petite salle. Voilà, mais ce film, donc, Le Miroir aux Alouettes, hein, ce film passe jusqu'en mai. Je crois que la dernière fois, c'est le 13 mai. Donc, vous pouvez avoir l'occasion de le voir donc au Cosmos. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un film qui a été fait en 1966 par deux cinéastes slovaques, Jan Kadar et Elmar Klaus, pas du tout connus en France, hein, en tout cas pas de moi, qui a eu un grand succès à ce moment-là et qui est ressorti récemment. Donc, en fait, moi, je l'ai vu à Paris parce que j'ai une amie qui l'a vu, qui m'a dit « vas-y, vas-y ». Bon, le titre est assez bizarre. Hein. Un miroir aux alouettes, ça veut dire normalement en français quelque chose qui trompe. En tchèque, j'ai l'impression qu'il y a des cigognes, il y a une histoire de cigognes. En tout cas, on voit passer des cigognes dans le générique. Bon, voilà, en tout cas, moi je trouve que ce titre ne donne pas du tout l'idée de ce que c'est. Alors, qu'est ce film ? Je vais vous résumer. Donc, dans un ville 1942, hein, donc on est en plein dans la guerre, le Cosmos donne un petit flyer très très bien fait avec beaucoup d'éléments. Donc, dans un village slovaque sous l'occupation nazie, Tona, menuisier sans histoire, loin des idées fascistes, accepte de son beau-frère, chef de la milice locale et sous la pression de sa femme, la gérance d'une mercerie appartenant à une vieille juive, Madame Lautmann-Nova. Alors, vous voyez, Lautmann-Nova, vous voyez, ce sont ces noms germaniques qu'avaient souvent les juifs, mais ici, mis à la mode slovaque, à la mode slave, hein, voilà, on ajoute Nova. Sourde, elle ignore tout des nouvelles lois raciales. Elle le prend pour un assistant. Tona, qui pensait faire fortune, déchante vite, mais il est contacté par la communauté juive qui lui propose de le payer pour aider la vieille dame à son commerce. Le quiproquo est total, mais une complicité inattendue naît bientôt entre ces deux êtres que tout oppose. Voilà, donc c'est effectivement, comme dit le flyer, un chef-d'œuvre tragicomique, oui. Cet homme, on le montre au début, vraiment, c'est un espèce de, comme on dit en yiddish, un neighbor ou un schlemil. C'est quelqu'un qui ne sait rien faire, qui ne travaille pas beaucoup. Donc, sa femme est derrière lui en lui disant « Allez, travaille, fais quelque chose ». Et ensuite, il y a une scène avec son beau-frère et la femme de son beau-frère qui se sont enrichis puisqu'ils sont pro-nazis. Hein, et donc, ils sont... c'est des collaborateurs, donc ils ont fait fortune. Et lui, il est là, il ne sait pas quoi faire. Donc, il y a une scène de beuverie avec son beau-frère. Il y a d'ailleurs, on boit beaucoup dans ce film. Hein. Et donc, le beau-frère lui propose donc de s'occuper de cette mercerie. Et il débarque dans cette mercerie où il va avoir ses relations avec cette vieille dame. Et donc, l'histoire se termine quand même tragiquement, puisque, alors, les relations entre lui et la vieille dame, je ne vous dis pas comment ça se termine, hein, mais ce qu'on voit, c'est la déportation des Juifs. Hein, c'est-à-dire qu'on voit donc que les Juifs vont être emmenés, sans doute vers des camps d'extermination. Évidemment, on leur dit que c'est des camps de travail. Ça se passe vraiment de manière très soft, je peux dire, très tranquille. C'est-à-dire qu'il y a une liste des Juifs qu'ils ont peut-être donnée eux-mêmes, d'ailleurs, que la communauté a peut-être donnée elle-même. Et donc, on voit tous les Juifs appelés par leur nom, donc leur nom, le nom de leurs femmes, leurs enfants, qui partent sur des charrettes. Hein, y a pas encore, y a pas de train, y a pas de voiture. Ils partent sur des charrettes tirées par des chevaux. Et on les voit partir vers une destination qu'on imagine évidemment tragique.
Hein, Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils partent vers Theresienstadt ?
Theresienstadt, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas exactement. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, la Slovaquie réclamait son autonomie par rapport aux Tchèques. Et donc, grâce aux nazis, ils ont obtenu l'autonomie. Et donc, ils étaient très reconnaissants aux Allemands de leur avoir donné l'autonomie. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils allaient à Theresienstadt, ouais. Parce que Theresienstadt, c'est Prague essentiellement.
Oui, c'est
hein, ça, voilà.
C'était plutôt les Juifs de Prague.
C'est les Juifs de Prague.
Déjà urbains, en fait, plus.
Oui, oui, c'est ça. Là, on est dans une petite ville. Hein, mm-hmm. On est dans, alors, qui n'est pas nommée. Hein, je pense qu'ils ont fait exprès. Donc, on ne sait pas trop qui sont. Enfin, quelle est cette ville hein, elle n'est pas. C'est une ville slovaque traditionnelle. Mm-hmm. À un moment, on fait un grand monument aussi en l'honneur de cette autonomie retrouvée ou trouvée. Voilà, donc c'est bon, ça se concentre vraiment sur les personnages principaux. Il n'y a pas d'éléments vraiment historiques très très précis, mm-hmm. sinon qu'on voit tous ces Juifs partir, sauf un petit garçon dont on comprend qu'une famille non juive le garde. Mais apparemment, sans que les parents soient au courant, parce qu'à un moment, la mère le cherche et puis elle ne le trouve pas. Et en fait, on voit une femme le faire rentrer chez elle. Bon, on a aussi le sentiment que personne ne sait ce qui va se passer avec eux. On ne sait pas ce qui va leur arriver. C'est évidemment le spectateur qui le sait. Bon, déjà, évidemment, en 1966. À l'époque, donc, c'était la période, comme vous le savez, soviétique. Donc, c'est quand même une rareté de faire des films sur la Shoah en pleine période soviétique, mais ils ont réussi à le faire. Voilà, on va peut-être écouter une musique.
Voilà, alors pour illustrer cette émission un petit peu particulière sur donc, le judaïsme tchèque, j'ai choisi deux choses en rapport avec la Tchécoslovaquie. Pour commencer, un disque d'un chanteur qui s'appelle Jakov Magid et qui est tchèque. Ça a été enregistré en 1993. En République tchèque. C'était avant qu'il y ait Tchéquie et Slovaquie. Je ne sais pas de quand, c'est bien après qu'il y a eu les deux pays.
Oui, je pense qu'après la guerre, on les a remis ensemble et ensuite, ils se sont séparés.
Séparés, mais
quoi.
Plus récemment. Enfin, je ne sais pas, 93, ils étaient déjà séparés. Ça, je ne sais pas. Alors, c'est ce monsieur Jakov Magid qui chante très bien. Il a toujours envie d'aller vers le joyeux, même quand il prend des chansons un petit peu, bon, pas tragiques, disons, mais mélancoliques. Il les tourne toujours en rythmique et en danse, finalement. Donc, j'avais vraiment envie de faire entendre, parce que c'est l'occasion de faire entendre comment la chanson yiddish est déclinée dans les différents pays et aussi dans le temps, hein, puisque 1993, ça commence à faire déjà un petit peu loin. Donc, j'ai choisi une chanson qu'il chante et que nous chantons aussi, « Arum dem Faya », mais on va voir comment il l'a fait évoluer vers quelque chose de très joyeux, alors que c'est une chanson, elle n'est pas triste non plus, c'est une chanson sur le plaisir d'être ensemble, mais qui reste autour du feu, qui est mélancolique. Mais chez lui, elle se développe différemment. Donc, Arum dem Faya, chanté par Jakov Magid.
Arum dem Faya, mir singen Lieder, die Nacht ist daya. Mir wird nicht müde, uns жолдос файер фарлошын верн шайнтыңыздар имыл мизайн эштерн тукройнды кеп мид блумен кранцы арумден файер мир фрейлех танцы валь танцын ли Из унзер лебн дер нох иншло халой мешвебн Валь танцун ли Из унзер лебн Der noch in Schloss Hallo im Schweden Arum dem Feier Mir singen Lieder Die Nacht ist daher Mir vermit wieder Soll das Feier verloschen werden Seine Stern, du kreu dich her mit Blumenkranzen, warum dem Feier mit Freilich tanzen, weil tanzen, singen ist unser Leben, der noch ist Schloch, hallo im Schweben.
Voilà, donc pour reprendre un petit peu l'histoire précise, en fait, elle est donnée dans ce flyer. Voilà, donc tout commence par les accords de Munich, hein, que tout le monde connaît, bien sûr, signé le 30 septembre 1938. Dans ce traité, les grandes puissances, donc le Royaume-Uni, la France et l'Italie, autorisent l'Allemagne nazie à rattacher à son territoire les régions germanophones de Tchécoslovaquie, les Sudètes. Donc la Tchécoslovaquie est déjà amputée d'une partie. Et ensuite, il va y avoir, en mars 1939, il rattache le reste du pays au Troisième Reich, puis il décide de diviser la Tchécoslovaquie. Donc, le protectorat de Bohême-Moravie passe sous contrôle allemand, tandis que l'État slovaque devient indépendant. Indépendant, en fait, sous un gouvernement fantoche, sous la direction de Joseph Tiso. Et donc, il y a une milice qui va s'occuper de la déportation à partir du mois de mars 1942, et en récompense, ses membres s'enrichissent en s'emparant des biens des Juifs. Voilà. Donc, c'est effectivement mars 1942, c'est cette période qui est montrée dans ce film. Alors, pourquoi moi je me suis intéressée à ce film ? Bien sûr, c'est un des films sur la Shoah, un film tout à fait précurseur, en tout cas en Union soviétique, enfin pas en Union soviétique, dans les pays sous influence soviétique. Et il a eu un énorme succès. Et donc, l'actrice principale, Ida Kaminska, a eu un prix. Mais lorsqu'il y a eu l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'URSS en 68, le film a été retiré. En 69, Jan Kadar a émigré aux États-Unis, où il a fait une carrière dans les téléfilms. Et l'autre cinéaste, Elmar Klose, est resté dans son pays et il fut renvoyé. Donc, il a eu une vie difficile. Voilà, donc là, il y avait vraiment la répression par le régime soviétique. Voilà, donc je reviens à ce qui m'a intéressée, moi, dans ce film. C'est que la vieille Mercière est jouée par Ida Kaminska. Alors, qui est Ida Kaminska ? Ida Kaminska est vraiment une figure du théâtre yiddish. Donc, le théâtre yiddish est fondé à Varsovie, est fondé par Esther Rochel Kaminska, donc la femme de quelqu'un qui s'appelle Abraham Isaac Kaminski, mais elle est beaucoup plus célèbre que lui. Donc, ce théâtre yiddish a un grand succès en Pologne, donc jusqu'à la guerre. Hein. Donc, elle, Rochel, a pour sa successrice, je ne sais pas comment on dit, sa fille, donc Ida Kaminska, qui est donc la fille de Rochel, qui va reprendre le théâtre yiddish. Donc, elle est née en 99, donc elle a pu déjà jouer, évidemment, de manière importante avant la guerre. Et lorsque la guerre éclate, elle n'a plus le droit d'exercer son métier, oui, ça c'est sûr, mais elle a réussi à partir, hein, ce qui est... Elle a eu, on peut dire, de la chance, hein, puisqu'on sait très bien que la grande majorité des Juifs de Varsovie sont morts, hein, ont été assassinés, ou sont morts dans le ghetto, voilà. Donc, elle a pu partir. Elle est partie aux États-Unis. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est revenue en Pologne en 1945. Elle a repris ses activités théâtrales. En 1947, elle a participé au premier documentaire mettant en avant des artistes juifs polonais, Mir Leben Gebliebenen, et elle apparaît dans un film d'Alexander Ford, de 48, La vérité n'a pas de frontières. Puis elle joue de nouveau au théâtre durant 18 ans, et en 65, donc là elle a 70 ans, voilà, elle participe, elle est la vedette du miroir aux Alouettes, et elle est nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice. Voilà. Ensuite, elle a encore tourné pour Janusz Majewski, pour la télévision polonaise, et puis Jan Kadar pour son dernier rôle dans The Angel Levin. Ah oui, et elle est enterrée au cimetière juif du Mont Hebron, à Flushing, dans l'État de New York. Oui, je pensais qu'elle était enterrée parce que sa mère est enterrée à Varsovie. Oui, évidemment, elle est morte à Varsovie, avant la guerre, bien sûr. Et donc, elle est enterrée à Varsovie dans le magnifique cimetière juif de Varsovie, énorme. Et donc, qui n'a pas du tout été détruit.
Mais voilà. En fait, elle parle quelle langue dans le film ?
Oui, alors, il parle slovaque. Hein, je pense qu'il parle slovaque.
Elle
parle slovaque, elle se débrouille. Alors, le slovaque est une langue slave. Oui. Hein. Bon, moi, je connais un tout petit peu le polonais. Donc, on dit aussi Dzień dobry, par exemple. Bon, voilà, donc... Alors, soit elle a appris le slovaque.
Parce qu'elle parle polonais.
Elle parle polonais, bien sûr. Oui. Sa langue, c'est le polonais.
Elle ne parle pas le yiddish dans le film.
Alors, elle parle un peu le yiddish. Mm-hmm. Justement, il y a quelques phrases en yiddish. Elle soupire, elle se plaint. Donc, il y a tout
ça,
d'un
c'est
coup,
en yiddish.
Là, il y a quelques phrases en yiddish qui sortent. Il y a aussi, à un moment, elle bénit les lumières de Shabbat. Donc là, c'est en hébreu, bien sûr. Bon, et c'est vraiment... C'est un personnage extrêmement attachant, très gentil, très doux. Donc, elle s'attache à ce tonneau, elle lui fait à manger. Mais en même temps, elle le dirige. Hein, par exemple, lui, il ouvre la boutique le Shabbat, parce que bon, il pense qu'il faut, quoi. Et elle dit, mais comment le Shabbat ? Mais j'ai toujours fermé, pourquoi vous ouvrez, etc. Donc, elle l'engueule à certains moments. Quand lui lui parle, elle ne comprend rien puisqu'elle est sourde. Donc, elle ne comprend absolument pas la situation. Et quand elle voit les Juifs partir, elle ne comprend pas ce qui se passe.
Oui, on la voit. J'ai regardé juste le teaser. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir le film. On la voit regarder à travers la fenêtre et voir les gens être emmenés. Et elle a, dans son regard, on lit, vu qu'effectivement, c'est une très bonne comédienne, vraiment l'étonnement, l'effarement, mais pas la peur, pas vraiment une
non,
panique.
Non, elle comprend pas trop ce qui se passe, mais elle... oui, alors, je pense que ça lui... Encore qu'il n'y a pas vraiment de scène de pogrom, hein, c'est-à-dire, ce qui est étonnant dans ce film, c'est que tout se passe en douceur, hein, c'est-à-dire, à aucun moment il y a de violence envers les Juifs, absolument pas, et les Juifs non plus n'essayent pas de résister, de... Ils se laissent emmener.
Ouais, ils ne savent pas du tout.
Voilà. Et donc, elle est là et elle regarde. Voilà, donc un film vraiment que je recommande. Donc je rappelle Le miroir aux alouettes, film de 1965, version restaurée bien sûr.
En noir et blanc.
En noir et blanc, magnifique aussi, les images sont
très belles.
Très belles images, donc au cinéma Le Cosmos. Et une petite annonce alors.
On a encore le temps de faire entendre une musique, oui, mais on va peut-être déjà faire l'annonce. Donc nous avons un concert samedi 3 mai à 14h à Lieu d'Europe. C'est cette semaine-là, c'est un petit peu la fête de l'Europe et dimanche, samedi 3 mai, il y a plusieurs groupes qui vont se succéder dans la nouvelle salle. Elle a peut-être maintenant, elle n'est pas encore si nouvelle que ça, mais quand même, elle n'a peut-être que 2 ans, dans ce lieu d'Europe, dans ce grand jardin. Heureusement, ils ont construit une salle un petit peu plus grande, parce que jusque-là, il n'y avait pas de salle de spectacle, en fait. C'était un lieu de ressources, on peut dire, où il y a beaucoup de choses sur l'Europe, mais une salle de réunion pour 10 personnes, mais pas une salle de spectacle. Maintenant, il y a une salle de spectacle, et donc plusieurs groupes strasbourgeois vont se succéder, musicaux, et nous sommes programmés, donc samedi 3 mai à 14h, voilà. Lohmeyersingen, concert de Lohmeyersingen.
Ça commence, je crois, à 13h et c'est toute l'après-midi.
Non, ça commence à 14h, nous sommes les premiers.
Ah, on est les premiers, ouais. D'accord. Alors, le matin, il y a des ateliers, des choses plus précises. Oui. Voilà, donc à 14h, Lohmeyersingen. Et puis après, si vous avez envie de rester, il y a encore d'autres groupes toute l'après-midi.
Alors, je voulais faire entendre quand même une chanson en allemand, puisque, bon, c'est peut-être une erreur par rapport au film dont tu as parlé, mais on le sait, la plupart des Juifs de Prague ont été donc déportés à Theresien, en allemand Theresienstadt, c'est les Juifs locuteurs de l'allemand. Et là, depuis longtemps un disque, il date lui de 1997, la plupart de mes disques datent du 20e siècle encore, bien que ça continue, il y a encore beaucoup de choses qui sortent, même récemment. C'est Bente Kahan, dont j'ai déjà fait entendre l'un ou l'autre CD, elle a beaucoup travaillé avec les enfants. Là, c'est elle qui chante en allemand, avec vraiment un excellent accent allemand. Donc des chansons d'une écrivaine, poétesse, journaliste, à 16 heures, Ilse Weber, qui est morte pendant la Shoah. Et donc voilà une chanson qui s'appelle Ein Koffer spricht, une valise parle, et c'est une valise qui raconte son histoire. Elle appartenait à un juif de Francfort, oui, parce qu'il y avait aussi des gens d'Allemagne qui étaient déportés à Theresienstadt. Un petit peu la bourgeoisie, si on peut dire, était...
Oui, beaucoup de d'écrivains, de poètes et de musiciens aussi.
Oui. Parce qu'on leur faisait miroiter que c'était un endroit un petit peu
plus supportable.
Oui. Oui, donc certains l'ont cru, ils devaient même payer pour y aller. Et plusieurs sont tombés dans le panneau et ils ont quand même été déportés. Et voilà, donc c'est la valise qui parle de son attachement à son propriétaire qui venait de Francfort et qu'elle espère le revoir, mais qu'elle avait contenait beaucoup de choses à l'arrivée, mais maintenant elle est vide. Très, très joli texte. Et donc, Bente Kahan a mis en musique tout le CD, c'est ça. Ce sont des poèmes de Ilse Weber mis en poème, en musique par Bente Kahan.
Voilà, et on vous dit à la semaine prochaine. Shalom Aleichem.
Merci, Thomas.
Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main und ich such meinen Herrn. Wo mag er nur sein? Er trug einen Stern und war alt und blind und er hielt mich gut, als wäre ich sein Kind. Ich hab meinen Herrn begleitet, Jahr aus, Jahr ein. Auch diesmal ging ich mit ihm, jetzt ist er allein. Er war alt und blind, wohin ist er gekommen? Und weshalb hat man mich ihm fortgenommen? Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main und ich such meinen Herrn.
wo mag er nur sein? Er trug einen Stern und war alt und blind und er hielt mich gut, als wär ich sein Kind. Warum bin ich auf dem Kasernenhof geblieben? Sein Name steht doch auf meinen Kleid geschrieben. Nun bin ich schmutzig, mein Schloss hält nicht mehr. Man hat mich geplündert, ich bin fast leer. Nur ein Tuch ist noch da, ein Becher dabei. Und seine kleine Blindentafel aus Blei. Sonst ist alles fort, die Arzneien, das Brot. Er sucht mich gewiss, vielleicht leidet er Not. Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main. Und ich such meinen Herrn, wo mag er nur sein? Er trug einen Stern und war alt und blind und er hielt mich gut, als wär ich sein Kind. Es muss recht schwer sein für einen Blinden, mich in dem Stapel von Koffern zu finden. Ich kann es auch so schwer verstehen, weshalb wir hier nutzlos zugrunde gehen. Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main. Ich möchte zu meinem Herrn. Er ist so allein.
But you bay did it if a yam the bum 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 bum.
Le Yiddish, aujourd'hui, chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités, avec Astrid Ruf et Annette Fern.